Je veux bien lancer la première question. J'ai été très frappé par l'exemple que tu as montré sur la carte Dust, notamment le schéma en fait réalisé par les concepteurs qui montrait que finalement ils avaient un peu essayé de penser à tout. Et donc je me demandais justement dans quelle mesure, au moment de la création de l'espace, finalement du jeu, il faut arriver à penser à tout ce que le joueur pourrait être capable de faire dans cet espace-là, ou si quand même il ne faut pas laisser une certaine marge de liberté finalement qui permettra en fait aux joueurs d'exprimer un peu leur inventivité ou...
Ah bah oui, mais ça peut être l'objet d'un jeu, enfin de dire il y a récemment et pas seulement d'ailleurs dans les jeux de création, parce qu'il y a des jeux qui sont vraiment axés sur la création comme les SimCity ou Movies ou tout ça. Non, mais un jeu comme Fable où on peut complètement s'écarter même des quêtes qui sont disposées dans l'espace, qui elles ont une difficulté croissante et représentent le schéma que je vous montrais de rapport à de tension constante. Il peut s'en échapper pour aller simplement visiter le monde et puis décider de séduire la coiffeuse et de l'épouser et lui faire des enfants dans la ferme du coin. Mais c'est quasi littéralement, hein, et vivre les aventures qu'il veut au niveau social à l'intérieur de l'espace. Il y a un autre exemple du genre, c'est Oblivion, où là le joueur fait ce qu'il veut, mais simplement il y a une adaptation dynamique du challenge à ce qu'il fait. C'est-à-dire, quel que soit l'ordre dans lequel il fait les choses dans cet espace, on va lui proposer, on va lui aménager quand même cet espace de tension permanente pour pas qu'il soit en surpuissance ou en sous-puissance par rapport aux événements qu'il rencontre. Enfin, ça pose des problèmes logistiques de conception de lui offrir de la liberté, mais il y a aucun problème. On les trouve et puis on les fabrique. Voilà. Faut maîtriser. En fait, l'important c'est que, c'est mon avis en tant qu'acteur, c'est que l'important c'est qu'il arrive à le faire le jeu. Après, qui est plus, c'est le rêve de tout le monde. Les jeux les mieux faits sont les jeux où les comportements vont être générés par le jeu. On fournit des outils aux joueurs, on s'assure qu'il va être face à des situations où il peut s'en sortir avec ses outils. Pour le reste, qu'il s'amuse. Il faut qu'il puisse déployer une foule de stratégies, il faut qu'il puisse s'amuser avec ça, il faut qu'il y ait toujours de l'incertitude dans son approche de la situation, etc. Ce qui n'est pas évident, le piège de dire une solution à chaque problème est facile. Hein. Il y a des jeux d'aventure, justement la French Touch qu'on évoquait tout à l'heure, qui a littéralement détruit des entreprises en France, était basé sur ce principe de j'interagis avec cette chose-là, elle sert à faire cette chose-là. Hein. On en revient un petit peu au jeu pour enfants avec j'ai le cube qui rentre dans la forme cube et le triangle qui rentre dans le triangle. Si vous faites ça, c'est sûr que vous n'avez pas de jeu. Hein,
sauf qu'en même temps, l'âge d'or des jeux d'aventure, justement, type Monkey Island ou tous les jeux d'avant, c'était justement ça, c'est-à-dire un objet dans un endroit pour une action.
Mais le challenge était différent. C'est justement, il y a eu une mécompréhension à une certaine époque dans les jeux d'aventure qui ont été faits. Tout le monde se disait, c'est facile de faire les jeux d'aventure et tout. Tu mets trois éléments interactifs, un décor avec des zones où ça marche, ça marche pas, avec un petit peu de logique, ça marche. C'est bon, on peut le mettre dans une boîte et le vendre sous le label jeu d'aventure. Mais simplement, les personnes qui travaillaient à LucasArts ou qui ont fait la grande période à Sierra des jeux d'aventure, ces jeux d'aventure extraordinaires, eux, ils avaient compris où ça se passait. J'évoquais tout à l'heure le fait d'avoir cette pensée associative entre les objets. Mais ils jouaient là-dessus à mort. Et le fait de mettre les objets dans une plus grande distance dans le temps, dans une plus grande distance dans l'espace, de faire que la combinatoire soit plus importante, recréer-nous le schéma mental de ce qu'il fallait associer ensemble, le noyer dans un plus ou moins dans un autre, dans plusieurs choses à résoudre en même temps, tout ça c'était pensé, c'était la manière dont on pouvait gérer le challenge intellectuel du joueur. Et les cas extrêmes, c'était dans Sam & Max où il fallait quand même se creuser un bon moment pour se dire, en fait, c'est en mettant le chewing-gum sur le phare du bulldozer que je vais pouvoir appeler ma petite amie. D'accord. Donc, et vous amenez à aller trouver ce truc-là. Donc, c'était. Donc il y avait vraiment quelque chose de très ludique, de recherche, de puzzle, qui a eu une mauvaise interprétation par la suite. On a 10 puzzles pour, à partir du moment où j'ai trouvé le bon objet pour le bon emplacement. Non, c'était un puzzle dans le sens faculté sollicité chez le joueur.
Euh, J'avais une question, donc je pense qu'il concerne le challenge. Par rapport aux maps cachées, aux cheat codes, est-ce que c'est un deuxième niveau de challenge ? C'est assez particulier aux jeux vidéo. Enfin, est-ce que c'est conçu par les level designers ? Est-ce que c'est une manière d'exploiter au maximum les capacités des joueurs et du jeu ? Et, je sais, ouais, comment c'est conçu, enfin, comment c'est pensé par les concepteurs du jeu et à qui ça s'adresse ? Et pourquoi ?
En fait, il y a beaucoup de gens, enfin, en particulier pour les jeux solo, parce que les jeux multijoueurs, c'est plus délicat, il ne faut pas qu'on permette de tricher, on déséquilibrerait le jeu, donc ça, c'est pas bon, et on traque les tricheurs dans les jeux multijoueurs. Mais par contre, dans les jeux solo, on est face à la machine, au collaboratif, et ce qui nous amuse, c'est quand même de la vaincre. Un truc artificiel devant nous qui a été conçu un petit peu comme un défi, et on veut y arriver, quoi. On veut arriver à faire ce qu'on veut à l'intérieur. Donc là, effectivement, de temps en temps, d'ouvrir les vannes et donner des cheat codes, parce qu'il faut bien dire que la plupart des cheat codes, s'ils sont là, c'est qu'ils ont bien été implémentés par les développeurs du jeu. C'est pour offrir un plaisir supplémentaire dans la machine. D'avoir été dans cet espace extrêmement contraint par des règles, avec des affrontements un peu durs, et puis soudainement dire « Ah, bah là, ta munition est finie, ta vie est infinie. Allez, vas-y, là, tu refais le jeu, et en générant une espèce de sensation de pouvoir sur la machine. » Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que ça n'est plus le jeu au sens game, ça c'est plutôt play, c'est mon bac à sable dans lequel je vais dessiner, et c'est un autre plaisir ludique que celui du challenge. Et d'ailleurs, vous remarquerez que souvent les cheat codes des jeux arrivent 2 mois après la sortie du jeu, pour ce qui est des gros jeux d'action aventure, donc c'est évidemment bien, très bien orchestré pour que les gens quand même affrontent un petit moment ce truc. Voilà. Oui, en fait, c'est pas une question de règles, je pense que c'est une question de thématique, ce qu'on veut faire vivre aux joueurs. Si vous dites à des gens qui vont jouer au tennis, c'est quand même une image assez universelle, et puis même, enfin, la tendance, c'est quand même justement de s'en débarrasser à mort de cet apprentissage des règles. Hein. Les jeux, même World of Warcraft, à l'heure actuelle, on n'a pas conscience, en y jouant pour la première fois, d'apprendre des choses. C'est une très grande force de Blizzard. Ils savent vous amener dans ce monde du jeu sans à aucun moment avoir l'impression d'être devant une application pédagogique. C'est extrêmement puissant. Et...
Mm-hmm.
Bah c'est dans 20-30% des jeux. Parce que là...
Voilà. Et est-ce qu'il y a des contextes où, justement, cette règle première qui est basique serait interdite ou se soulèverait...
Ah bah bien sûr, il y a des jeux où c'est même interdit de tuer, bien entendu. Il y a des jeux d'infiltration en particulier. En fait, tout peut devenir... l'objectif peut être de sauver les gens, l'objectif peut être de faire quelque chose en collaboration. Après, ça tout dépend de vous en tant que créateur ou personne à qui on se voit confier une licence pour la réaliser. Vous voulez véhiculer avec. Qu'est-ce que vous voulez porter dans votre jeu ? Qu'est-ce que vous voulez faire vivre aux joueurs ? Si c'est une sensation collaborative et de respect de l'humain, voilà. Ça c'est plutôt comme du design industriel.
Oui. J'ai l'impression que le monde est quand même pluriel. Je ne suis pas du tout expert dans ce domaine, hein, mais il existe peut-être des manières d'appréhender le jeu basique. On a parlé de jeux de Go, des jeux, quel que soit par exemple. Mais dans le domaine du jeu vidéo, comme on a quand même une culture de connexe avec le monde industriel, mm-hmm. J'ai le sentiment que finalement, au bout d'un moment donné, on finit par établir un peu comme le cinéma des grandes règles comme ça, des grands archétypes, par exemple, enfin des blockbusters.
Alors oui, donc alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement l'aspect Est-ce qu'on peut résumer l'industrie du cinéma aux blockbusters? Non. Non, donc en fait, ce qui se passe pour le jeu vidéo, c'est à peu près la même chose. Il y a des grandes productions internationales qui se vendent partout, avec un grand fort de publicité et d'annonces, et qui sont souvent des jeux très spectaculaires, orientés vers des jeunes adultes masculins. Mais vous avez les Sims, qui fait peut-être moins parler de lui en termes de promotion que de sortes des choses, mais qui ont vendu à lui seul autant de boîtes que 5 années de grands jeux d'action hyper violents. Donc on ne peut pas résumer la production du visuel au blockbuster, on ne peut pas résumer les jeux vidéo aux grandes productions qui sont interculturelles. Par contre, j'ai vraiment l'impression effectivement que ce médium est un des premiers très forts médiums internationaux, enfin, où il y a une identité commune qui apparaît. Et je ne le vois pas comme une imposition, il y a une relation constante avec le joueur. Et sans tomber dans le piège de dire on fait ce qu'il a envie, parce que ça c'est une idiotie en conception, si on fait ce qu'il demande on fait des mauvais jeux et on fait des mauvais films si on fait ce que les spectateurs disent qu'on doit faire. Donc par contre, bien connaître les gens, c'est fondamental dans le jeu. On n'a pas d'autre solution, vu qu'on va lui mettre la main entre les mains, qu'on va vouloir son implication à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a certains aspects qui se rapprochent vraiment du design industriel, où on prototype sans arrêt et on regarde quels sont les bons usages et les bonnes pratiques. Et effectivement, du coup, là, on en retire certaines règles. Hein, et pendant des années, elles n'ont pas été les bonnes, d'ailleurs. Hein, dans les manipulations, dans les pads, c'était très fermé. Il fallait passer au-delà de cette manipulation pour pouvoir profiter de l'expérience de jeu. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. Donc, il y avait même un autre truc il y a quelques années. Il y a 15 ans, il fallait lire 200 pages de règles pour pouvoir faire certains jeux. C'était absolument absurde. Donc, maintenant, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus intuitif. Donc, si, effectivement, il y a une espèce de codification qui se met en route de temps en temps, elle est plutôt dans le bon sens du terme. Je la vois pas comme c'est pas du même ordre que les règles fondamentales de la narration, par exemple. Oui, effectivement, là, il y a peut-être des règles fondamentales du jeu. Hein, je pense que j'en ai évoqué quelques-unes ici pour dire, pour faire un jeu, il faut qu'on gère ce que le joueur va percevoir. Il y a une interaction, tout ça. Là, ça, c'est sûr que sans ça, il n'y a pas de jeu. Il faut qu'il y ait une forme d'incertitude, sinon il n'y a pas de jeu, etc. Ça, c'est les règles fondamentales et qu'on connaissait peut-être même sans s'en rendre compte avant même de faire des jeux vidéo. Mais pour ce qui est d'imposer des modèles, voilà. On pourrait critiquer le contenu des jeux, ça bien sûr, et puis il faut le faire, parce qu'il y a des jeux maintenant qui peuvent véhiculer des choses et dire bon, mais ça c'est plutôt positif, c'est pas mal, non, ça j'aime pas du tout, ah, je déteste ce que peut véhiculer comme imagerie celui-là ou tout ça. Mais là on va c'est un débat de fond très intéressant sur voilà. Et à l'heure actuelle, si vous regardez l'ensemble des jeux faits, entre les petits jeux flash, entre guillemets petits, parce qu'il y en a de plus en plus gros, et des petits jeux d'auteur qui ont été faits par 3 personnes dans leur coin, jusqu'au très gros blockbuster, vous avez un panel d'expériences et de thèmes énormes, et parfois des choses très régionales. Enfin, est-ce que ça répond à l'ensemble des questions que vous vous posiez? Pardon?
Oui, enfin, c'est vrai que j'ai écouté attentivement, ça m'a apporté moi quelques réponses aussi à la question que je me posais sur ce qu'est le jeu. Je résume probablement mal, hein, mais j'ai l'impression que finalement, du point de vue du concepteur, il s'agit de proposer une expérience ludique qui en même temps repose sur la gestion de l'incertitude. Donc il faut qu'il y ait une gestion de l'incertitude avec une trajectoire ludique, quoi. Si je comprends bien. Parce que finalement, l'objectif, j'espère un peu, j'ai l'impression que c'est le moyen, c'est la trajectoire qui compte beaucoup. Puisque les objectifs sont très multiples, ça peut être d'avoir le plus de points, ça peut être de terminer le jeu, etc. Et puis terminer le jeu, c'est ambigu. Hein, c'est-à-dire que j'ai observé, et je reviendrai après sur votre question, mais dans terminer le jeu, vous évoquez les jeux qui sont extrêmement larges, avec une grande liberté indépendante de certains objectifs intermédiaires. Et je pense à Zelda, par exemple. J'ai rencontré des personnes qui avaient un grand plaisir en fait à tout faire, à tout parcourir, à tout trouver. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de ça a priori. Et finalement, si. Enfin, ça dépend des gens. Et j'ai l'impression que c'est là. Et ça, je rebondis un peu sur votre remarque. C'est là que j'ai l'impression que se joue tout l'art en fait du level design, c'est-à-dire que d'arriver à ce que chacun s'y retrouve, c'est-à-dire faire des jeux où finalement, ça vaut pas pour tous les jeux, hein, mais où les uns et les autres vont y trouver des repères différents, des enjeux différents, des plaisirs différents. Alors là, ça me renvoie à à un autre problème. Alors, je pense à, j'avais noté ça, David Cage, qui est un concepteur de jeux que vous connaissez peut-être, dans une récente interview, il a dit, pour s'exprimer au 19e siècle, il fallait être écrivain, au 20e cinéaste, au 21e, il faut être dans le jeu vidéo, c'est le média qui a le plus fort potentiel, le plus pertinent. Alors, du coup, je reviens sur cette idée de la conception, c'est-à-dire, en fait, si je reviens à l'écriture, c'est vrai que l'écrivain, il essaie aussi de créer un peu cette tension pour que le lecteur décroche pas, donc à la fois de l'amener toujours vers quelque chose de nouveau et en même temps pas trop, parce qu'il faut que le lecteur se sente quand même concerné. Dans le cinéma aussi, sauf que c'est un peu plus facile parce que la personne est assise, sortir de la salle, c'est un acte fort. Dans le jeu vidéo, on peut éteindre assez facilement, donc on retrouve un peu ça. Et dans le moyen d'expression, c'est là que on a cette relation entre à la fois concevoir une expérience qui peut se vendre et puis en même temps d'arriver à ce qu'on ne cherche pas le plus petit dénominateur commun, enfin le plus grand dénominateur commun, je veux dire, et donc du coup parfois pas grand-chose, ce qui est un risque dans le cinéma que vous avez soulevé. Mais j'ai l'impression que le jeu vidéo, finalement, parce qu'il est moins rigide que le film, dans la linéarité, à une marge de manœuvre plus grande. Enfin, c'est-à-dire que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que pour un film, en fait, on a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus limitée que pour un jeu. Alors, moi, ça me renvoie à une question que je me pose et que, du coup, je vous pose. C'est à savoir si, comme c'est très difficile d'anticiper à l'avance ce que les gens vont faire et de gérer justement cette incertitude, de voir est-ce qu'on a bien évalué la capacité des gens à s'approprier, à dépasser la difficulté, ou parfois d'ailleurs on met une difficulté trop grande et puis les cheat codes servent à ce qu'on le termine quand même. Ça me fait penser à Far Cry par exemple, qui a été réputé pour ça. Enfin, ceux qui ont fini le jeu sans tricher, je pense, sont rares. Enfin, les concepteurs du jeu, peut-être, je ne sais pas. Et donc, parfois, c'est difficile d'évaluer la difficulté. Et donc, je me demande dans quelle mesure, dans le jeu vidéo, c'est déjà en cours, mais dans quelle mesure ça ne va pas faire comme pour Internet, c'est-à-dire où, à un moment, on va proposer des outils extrêmement puissants qui n'apparaissent pas, mais qui sont extrêmement puissants pour que les joueurs eux-mêmes développent leur environnement de jeu, c'est-à-dire en créer des environnements de développement de jeu pour que justement cette gestion en fait soit extrêmement dynamique, c'est-à-dire que là je vais sur des problématiques que je connais mieux comme celle du web, hein, comme les questions qu'on se pose sur par exemple l'alchimie des multitudes de Pisani ou intelligence collective, ces choses-là, c'est-à-dire qu'en gros de voir dans comment finalement les joueurs ne seraient pas les meilleurs concepteur de leur gestion de l'incertitude. Alors, parce que là, je sais qu'en même temps, je termine juste parce que je conçois en même temps que pour le jeu vidéo, on est sur de la production beaucoup plus lourde que produire un peu juste de l'écrit. Non, mais c'est-à-dire que je vois maintenant au niveau des décors, des personnages, il y a un travail de conception qui est considérable. Donc voilà, donc j'arrive pas à savoir si on peut envisager ce glissement. Ou si finalement ça demande des compétences trop rares pour qu'il puisse y avoir cette appropriation qui permettrait de résoudre en partie le problème que vous évoquiez, c'est-à-dire que les gens puissent en fait faire émerger quelque chose en fait qu'on n'attend pas et de leur donner les moyens de le faire.
Mais en fait, il y a déjà beaucoup de jeux qui proposent, qui fournissent les outils de création du jeu. Ouais. Vous prenez Unreal par exemple, Neverwinter Night, Warcraft, vous avez dedans des éditeurs que vous pouvez modifier comme vous voulez, vous pouvez créer des cartes, implémenter des nouveaux personnages, les paramétrer comme vous voulez et créer vos propres aventures. Et donc il y a des tas de communautés qui naissent, locales, ou mêlant plusieurs pays, ou internationales, des communautés donc qui travaillent autour de ces choses-là. Et il y a un autre phénomène qui a été provoqué par tout ça, c'est que moi je compare souvent à l'arrivée des Hatton dans le cinéma dans les années 60, c'est que justement c'est sorti des studios la créativité. Il y a maintenant un espace où vous pouvez faire un jeu avec quelques copains qui aura effectivement pas, on peut pas réclamer l'ambition et la finalisation d'un jeu réalisé par un très gros éditeur qui aura mis 20 millions d'euros pour le faire, mais vous pouvez réaliser des jeux. Et l'apparition, même le flash, l'action script, tout ça, le fait que ça soit arrivé, ça a été comme cette caméra portable qui a créé la nouvelle vague. Donc là, ce qui est arrivé après cette démocratisation des outils, eh ben, c'est des générations de gens maintenant quand ils veulent rentrer dans le jeu vidéo, eh ben, ils ont un portfolio comme s'ils avaient fait des courts-métrages. Ils montrent des niveaux, ils montrent des petits jeux qu'ils ont faits. Il y a Gonzalo Frasca qu'on évoquait, qui a pu réaliser les premiers news games qu'on connaît. C'est Yann Bogos qui a continué en ayant carrément une chronique comparable à ce que fait Plantu dans le Monde, mais c'est un petit jeu qui est sur le New York Times en ligne ou quelque chose comme ça. Donc les gens qui sont abonnés au New York Times en ligne peuvent jouer à son petit jeu qui est sa chronique sur l'actualité. Donc c'est ça, évidemment les ambitions sont pas les mêmes, mais si vous êtes porté par une ambition créative, même dans votre coin, vous pouvez faire des jeux à l'heure actuelle. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a pas besoin de 15 ou 20 personnes pour faire un petit jeu. Même les plus communs, vous avez Super Smash sur Nintendo, vous créez des niveaux, donc c'est très très, ça commence à vraiment se répandre. C'est ça.
Donc peut-être qu'on s'éloigne, je termine juste, et du coup, ce qui ferait, parce que pour ça je pense aussi à vos remarques, ce qui ferait, moi j'ai l'impression à vous entendre que finalement, ce qui fait le jeu vidéo, c'est la confrontation. Or, quand on évite un niveau, justement, il n'y a plus de confrontation, parce qu'en fait, on sait parfaitement où sont les difficultés.
Vous l'avez dit, hein, c'est le plaisir de créer un niveau, de le proposer aux autres. On passe un petit peu de l'autre côté. C'est le moment où on arrête de regarder des films, on prend son petit caméscope pour aller faire un petit quelque chose avec ses copains et voir ce que ça donne quand je veux faire mon film. Ça revient à la même activité. Et pour revenir à des proportions, je pense que ça représente 10% des joueurs qui sont tentés, qui ouvrent, qui regardent, qui veulent tripoter un peu la chose. Là. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que ces outils étaient très, très rébarbatifs il y a quelques années. Et plus ça avance, plus ils sont conviviaux. Et parce que c'est le cas aussi dans les studios. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le premier niveau que j'ai réalisé sur Dune à widescreen, j'avais un programmeur à côté de moi parce que c'était impossible de faire quoi que ce soit dans cet espace. Je me disais, alors là, fais attention, mets ça là, attention, ça, mets-le comme ça, tel paramètre. Maintenant, on a des outils en temps réel où je prends un objet, je le pose et je joue tout de suite dedans. Et j'ai une itération immédiate pour tester cet espace. Donc du coup, convivialité, elle s'est transmise. Si, mais c'est idiot de ne pas laisser ça entre les mains des joueurs. C'est un autre plaisir de le faire. Et donc, Little Big Planet, évidemment, mise à fond là-dessus. Super Smash Bros. Sur Nintendo a montré la voie aussi. C'est-à-dire que même sur des environnements qui ne sont pas des endroits de fabrication avec des souris, des claviers, tout ça, on arrive à mettre des outils de création, d'expérience de jeu à la portée de tous. Voilà. J'ai pas l'impression. Parce qu'il y a déjà un tel potentiel à mettre en œuvre. Enfin, je pense que c'est quelque chose de très complémentaire. Je crois plus en l'image des outils qui se démocratisent et qui permettent à une nouvelle génération de créateurs d'arriver. Parce qu'évidemment, les personnes qui créent ces niveaux et qui se prennent un peu au sérieux tout de suite, hein, ce qu'ils veulent faire derrière, c'est des jeux et maîtriser l'expérience d'un joueur. Donc. Non, je crois pas que ça soit l'approche. Ça enrichit ce que je trouve très intéressant, c'est les auteurs qui arrivent à utiliser ça pour proposer une expérience de jeu. Mais déjà, quand on fabrique un jeu traditionnel, ce qu'on fait, c'est mettre des outils entre les mains du joueur et le plonger dans un espace pour aller s'amuser avec ces outils-là. Entre ça et fabriquer des outils conviviaux pour fabriquer des niveaux, finalement, il n'y a pas un grand pas. Et c'est justement le jour où c'est remonté des gens qui fabriquaient les outils aux designers qui ont dit ah bah attends, mais moi je vais prendre ça, je vais en faire un truc rigolo qu'on pourra manipuler pour fabriquer des niveaux, que ça se répand. Mais non, je crois pas que ça soit un aveu de. C'est un nouvel outil qui a été trouvé et qui va permettre de créer encore des nouvelles choses. Et l'objectif est toujours le même, hein, c'est s'amuser à se disposer un certain nombre d'espaces de liberté et d'incertitude. C'est une des formes fondamentales du jeu. Enfin, la gonne, l'affrontement, la mise en scène du conflit. Après, ce conflit n'est pas forcément entre les humains, comme on évoquait les jeux collaboratifs qui se répandent. Mais l'affrontement, c'est pas forcément se tirer dessus, hein, parce que là, c'est ce que semblait suggérer ce que vous disiez, mais on peut lutter contre les éléments, on peut tenter de mettre des choses en équilibre les unes sur les autres. On affronte les lois de la physique, hein, et donc il faut pas tomber dans le piège de se dire en fait tous les jeux c'est mettre des flingues entre les gens. Déjà, les jeux qui mettent des flingues entre les gens sont pas si nombreux que ça sur l'ensemble de ce qui est. Ah, mais si, bien sûr. Tout à fait, non mais là vous vous trompez. Hein.
Enfin, sur l'affrontement, y a un aspect important, surtout dans les jeux en réseau, qui est aussi de s'associer pour affronter d'autres personnes. Alors ça crée du lien assez fort, hein, notamment enfin, en Corée, ils sont les spécialistes de ça, mais et pour Counter-Strike, c'est un exemple particulier. Je crois que ça contribue beaucoup d'ailleurs à son succès, c'est que l'équipe est très très importante. Donc ça ne résout pas complètement votre problème, parce qu'elle elle s'unit pour affronter un autre groupe. Mais en tout cas, ça crée quand même aussi du lien. Sinon, pour cette